Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui, intitulée « Aux origines du monachisme ». Nous sommes en compagnie d'Yvan Koenig, chercheur au CNRS et spécialiste de la spiritualité chrétienne. Alors, Yvan Koenig, au cours de la première émission, on a fait un parcours comme ça assez rapide, mais évidemment pour voir comment est né le monachisme chrétien. Vous avez dit qu'on n'était pas vraiment très sûr du moment où on peut parler vraiment de monachisme organisé. Et on l'a vu naître en Syrie, en Égypte aussi. Alors, le personnage clé, évidemment, c'est Antoine, saint Antoine, le modèle de tout moine, je dirais. Puis évidemment, ce texte fameux, La vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie. Et nous avons terminé la première émission avec un extrait de ce livre et nous allons commencer la seconde avec un extrait également de ce livre. Pourquoi ? Parce que Antoine est justement la personnalité qui, je dirais, propose toutes les versions du monachisme ultérieur. L'ascétisme, puis il parle aux gens, il enseigne, il est de nouveau en contact avec la société et il passe maintenant son message. Alors, si vous voulez bien, on va commencer donc par une lecture commentée de la vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie avant de continuer sur le monachisme égyptien.
Oui, avec plaisir. Voici donc un passage qui montre justement ce rayonnement d'Antoine. Il défendait de telle sorte ceux qui étaient victimes de l'injustice qu'on pensait que ce n'était pas d'autres, mais lui-même qui la subissait. Son aptitude à être utile à tous était telle que beaucoup de soldats et de gens qui s'étaient acquis de grands biens déposaient les fardeaux de cette vie et se faisaient dès lors moines. Vraiment, il avait été donné par Dieu pour médecin à l'Égypte. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que, en fait, il y a deux phases dans la vie spirituelle. Deux phases qui vont être théorisées par la suite par des gens qui ont une appréhension plus systématique de la vie spirituelle. La première phase est la lutte contre les passions, ce qu'on va appeler la pratique. Et la deuxième phase est plus axée sur la contemplation et sur la prière et la relation avec Dieu qui devient de plus en plus forte. Et donc c'est à ce moment-là que s'opère la transfiguration de la personne qui est théophore, pourrait-on dire, et c'est en quelque sorte le processus de divinisation, c'est-à-dire le programme en fait du christianisme.
On va maintenant continuer, si vous voulez bien, pour montrer quelle est l'évolution de ce premier monachisme en Égypte même, parce que c'est là qu'on va avoir les premières fondations, je dirais, de ce qu'on peut appeler un monastère. Et notre personnalité après Antoine, évidemment, c'est Macaire.
Oui, c'est Macaire d'Égypte. Macaire qui agit d'ailleurs en liaison avec Antoine. C'était des gens qui se connaissaient et qui avaient d'excellentes relations. Saint Macaire, donc, qui était le fils d'un chamelier qui transportait du natron, c'est-à-dire une sorte de sel qui se trouve entre le Caire et Alexandrie, a choisi justement cet endroit qu'on appelle le Wadi Natroun, la vallée du natron, si vous voulez, pour fonder des établissements monastiques. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine évolution dans ces établissements monastiques. D'abord très simples, ils deviennent de plus en plus de petits ermitages, qui sont tous construits à peu près sur le même plan, et qui se regroupent autour d'une église. Et les moines vivent dans leurs ermitages et se réunissent le samedi et dimanche pour les prières communes. Donc, c'est semi-érémitique. C'est une forme donc particulière à l'Égypte. Par la suite, il faudra protéger ces ensembles et donc on va construire une muraille parce qu'il va y avoir des attaques et un donjon. Et ce donjon, d'ailleurs, qui subsiste toujours actuellement dans les monastères d'Égypte. À côté de ce monachisme semi-érémitique, vous avez le monachisme vraiment cénobitique de Saint Pacôme. Saint Pacôme qui, lui, est un peu plus tardif, entre 292, 346, 348, qui, lui, a une histoire assez particulière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour tous ces grands personnages de la vie monastique, on voit que leur vocation est déterminée par des événements de leur vie. Saint Pacôme était, disons, un païen, et on l'a réquisitionné pour l'armée. Or, faire son service militaire à l'époque, c'était pas quelque chose de drôle. Donc, on l'a emmené pour faire son service militaire. Il était accablé, il avait soif et qu'il n'était pas bien. Et des gens sont venus au secours de ces recrues, leur ont apporté à boire et à manger. Et Saint Paco m'a demandé, mais qui sont ces gens? Ce sont des chrétiens. Et donc, il a découvert les chrétiens comme ça. Et le monachisme de Saint Pacôme est un monachisme qui s'occupe beaucoup, qui est davantage cénobitique, qui va regrouper les personnes qui vont vivre dans des établissements, qui vont être séparés suivant les métiers, et chaque maison ayant un supérieur. Et l'ensemble, évidemment, sera soumis à un igoumène, pourrait-on dire, pour Pacôme, qui est un charismatique. Et donc, c'est l'obéissance à l'égoumène qui va aussi être déterminante dans ce type de monachisme. On dit que ça concerne des milliers de personnes. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, bien sûr, il y aura des régulations parce qu'il faut bien organiser cette vie commune. Donc, on va organiser tout ça. Et donc, le monachisme pacomien va avoir des régulations qui vont être traduites en latin par Saint Jérôme et qui passeront au monde latin.
Donc, nous voyons toutes les étapes. L'étape, je dirais, ascétique, l'isolement. Et ça va très vite, hein, parce que on dirait, en gros, dans la première moitié du IVe siècle. Hein. Alors, on passe de ça à une version qui relie de conception du moine. Il y a des ermites, mais ces ermites vivent quand même dans un ensemble. Ils ne sont pas totalement isolés. Et se retrouvent quand même, c'est très important pour les célébrations. Alors, c'est fondamental pour montrer aussi le rôle de la célébration et je dirais ici le rôle de l'Église comme institution.
Hein? Absolument.
C'est la participation à l'Eucharistie qui rappelle la participation de chaque moine à l'événement, je dirais, de l'Église. Puis, évidemment, une troisième étape, celle de Pacôme, avec un monachisme communautaire, je dirais, cénobitique, si vous voulez, où tout le monde est ensemble. Et comme vous avez dit, le fait d'être ensemble, le fait d'avoir un chef spirituel, mais quand même un chef, oblige à une organisation de la vie. Je dis ça parce qu'on va passer dans des textes qui sont des typica des monastères, hein, qui donnent une sorte de règlement. Et on se demande pourquoi. C'est pas tout simplement parce que lorsque on vit en communauté, on est obligé d'avoir une règle, autrement ça ne marche pas. Hein. Des raisons pratiques, donc, qui entrent. Alors, le rôle de la prière dans cette vie cénobitique. Parce que la prière est quand même toujours au cœur de la vie monastique. Hein.
Alors, on peut dire, si vous voulez, que la prière, le rôle de la prière est le même que celui qu'on a dans les petits ermitages de Saint-Macaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, au fond, on voit que dans le monachisme syriaque, il y a deux choses qu'ils n'ont pas réussi à conjuguer. C'est la prière et le travail. Et ils ont séparé, en quelque sorte, les deux. Dans le monachisme égyptien, on a résolu, en quelque sorte, cette contradiction en travaillant tout en priant. Et c'était des travaux très simples, bien sûr. Par exemple, dans les petits ermitages de Saint-Macaire, on distribuait aux moines des papyrus qu'ils devaient tresser, et ils faisaient ses sandales, ils faisaient des cordes, ils faisaient toutes choses qu'on peut faire comme avec ces papyrus, et qui étaient récoltées par la suite, puis on leur donnait ce dont ils avaient besoin. Et la même chose va se passer dans le monde cénobitique. Et là, on voit qu'on va, en même temps qu'ils travaillent, les moines vont se concentrer sur une prière très simple. En général, sur des récitations de versets de psaumes. C'est ce qu'ils appellent la mêlée. C'est très important parce que c'est cette méditation, cette lecture en profondeur qui est la recherche toujours d'un sens spirituel. Évidemment, tous les versets ne se prêtent pas à ça, mais beaucoup de versets s'y prêtent. Et donc, il y a une concentration toujours dans la prière. Et cette prière est brève parce qu'elle ne doit pas détourner le moine, elle ne doit pas. Ce qui, vous savez, l'esprit ne peut pas penser à rien. Et donc, Saint Jean Cassien, plus tard, proposera une formule qui est très simple. Seigneur, écoute mon appel, mon Dieu, viens à mon secours, qu'on retrouve même à l'heure actuelle chez les bénédictins. Bon. Mais, en même temps, donc ça vous permet, si vous voulez, d'affaire un travail simple, comme les faire des cordes, tresser des sandales, etc. Donc on va conjuguer les deux. Et c'est ça, on peut dire, la solution égyptienne.
Il faut gagner sa vie, en même temps, il faut faire vivre une communauté. Hein, voilà. Quand elle est grande, il faut des ressources.
C'est-à-dire que il y a deux impératifs. Un, c'est... D'ailleurs, les apôtres le disent, qu'il faut gagner sa vie, hein, à la sueur de son front. Il faut gagner sa vie. En même temps, il y a cet adage, prier sans cesse. Comment conjuguer les deux? Voilà une solution. C'est de travailler à des travaux très simples, tout en se concentrant sur des prières elles-mêmes très simples. Et ça permet à l'esprit de se concentrer et de laisser la grâce agir dans la personne.
Nous allons maintenant aller dans l'église. Bien sûr, ce sera dans un monastère en ce temps de carême pour entendre un extrait de la liturgie du Grand Carême par les moniales du monastère Sainte-Elisabeth de Minsk. C'est des femmes et c'est un monastère dans le monde slave cette fois-ci. Témoignage du monastère Sainte-Elisabeth de Minsk, donc dans un extrait des complis du Grand Carême. Nous revenons à notre entretien avec Yvan Koenig sur les origines du monachisme. Évidemment, là on vient d'entendre des femmes, parce que le monachisme dans le monde chrétien est une expression majeure, et évidemment il y a des monastères d'hommes, des monastères de femmes. Il faut dire aussi qu'il y a des modèles féminins dès les premiers siècles du monachisme. Hein, on a cette Mélanie, hein, cette romaine noble, qui avec ce mari vont décider de quitter la vie tout à fait aisée qu'ils avaient à Rome pour aller à Jérusalem. Ils deviennent tous les deux en fait des ascètes dans la ville. Puis Mélanie va aller à Constantinople et elle va revenir. Donc un modèle d'anachorète, je dirais, qui a connu la vie du monde, si je puis dire. Puis évidemment, l'Église nous propose comme exemple d'anachorèse et de renoncement au monde avec Marie l'Égyptienne pour le cinquième dimanche du Grand Carême. C'est très important aussi la place qu'elle occupe. Hein. Juste avant le dimanche des Rameaux et Pâques, ce modèle d'une femme qui a une vie dissolue et qui finit dans le désert toute seule. Et il y a qu'un moine, Josim, qui viendra la voir de temps en temps et puis elle recevra l'Eucharistie là-dedans. Donc, le modèle ascétique continue toujours et est proposé par l'Église comme un modèle de prière et, comme vous avez dit, de réception, enfin d'un moyen pour recevoir l'Esprit Saint. Alors, après ce bref, évidemment, parcours du monachisme naissant en Syrie et en Égypte, nous allons parler d'une personnalité, Saint Jean Cassien, qui relie les deux mondes, l'Orient et l'Occident. Parce que cette tradition, évidemment, du monachisme passe également en Occident et en France même, puisque nous pouvons toujours aller à Marseille et vénérer les reliques de Saint Jean Cassien. Et parler de cette transmission, justement. D'abord, le personnage, comment il reçoit lui-même le monachisme en acte, je dirais, présent à son époque, et comment il va passer après en Occident.
Oui, Saint Jean Cassien est une personnalité majeure et exceptionnelle, pourrait-on dire. Donc nous sommes déjà dans une génération, la génération suivante, nous sommes en 435, et Saint-Jean-Cassien est né en City, c'est-à-dire en Roumanie actuelle. Hein. C'est, disons, l'accord général des chercheurs, bien qu'il y ait des discussions sur la question, mais ce qui me semble parfois un peu oiseuse. Il vient d'abord en Palestine, en compagnie d'un ami qui s'appelle Germain. Et de la Palestine, il va se diriger vers l'Égypte, qui est vraiment considéré comme le foyer du monachisme. C'est intéressant parce que Évagre, déjà, Évagre le Pontique, va suivre a suivi le même parcours et est allé d'abord en Palestine. Et c'est Mélanie, justement, qui est une forte femme et une femme spirituelle, qui va envoyer Évagre, qui était sujet à certaines tentations, qui va l'envoyer en Égypte et donc chez les moines égyptiens. Et donc, Saint Jean Cassien va suivre le même parcours. Et il va arriver en Égypte par le delta oriental, c'est-à-dire l'opposé d'Alexandrie, et il va se rendre progressivement vers Cété, c'est-à-dire l'endroit où qui a été fondé, le centre monastique fondé par Saint Macaire. Et il va à ce moment-là rencontrer différents spirituels, différents moines, avec lesquels il va avoir des discussions. Et il va rester, s'installer au Kélia, donc aider le centre où vivait aussi Évagre à l'époque, centre qui a été fondé par un grand spirituel qui s'appelle Amoun, auparavant, qui était un proche, qui connaissait très bien Saint-Antoine aussi. Et au Kélia, donc il va avoir cet enseignement d'Évagre. Or, l'enseignement d'Évagre est assez particulier puisqu'il est divisé en deux parties. Une partie qui est ascétique et qui sera totalement reçue par l'Église et intégrée dans l'enseignement de l'Église. Et une partie qui est spéculative qui sera condamnée et rejetée par l'Église. Au point qu'on ne la trouve maintenant plus que dans certains textes syriaques qui ont été publiés grâce à Antoine Guillaumont qui a fait un travail remarquable et qui a publié cette version des Cephalaia Gnostica, des chapitres gnostiques, sous deux versions, une version pas très origéniste et une version très origéniste, c'est-à-dire qui accentue et qui durcit, on pourrait dire, les positions d'Origène. C'est ça qui va être condamné, mais tout le côté ascétique va être retenu par l'Église. En fait, cet enseignement va se heurter à une opposition d'un patriarche d'Alexandrie qui s'appelle Théophile et qui est très hostile aux origénistes. En fait, Évagre meurt en 399 et la condamnation de Théophile est de 400. Donc on peut dire que Évagre n'aura jamais été condamné de son vivant. Et la première condamnation, donc, c'est Théophile qui... Et à ce moment-là, mais Théophile était un patriarche très autoritaire et même violent. Et les moines qui étaient autour d'Évagre ont dû s'enfuir d'Égypte. Et à ce moment-là, Saint Jean Cassien va aller à Constantinople, où il va séjourner auprès de Saint Jean Chrysostome, qui fera de lui d'ailleurs un diacre. Théophile va continuer à poursuivre en quelque sorte les origénistes. Il va s'en prendre au patriarche de Constantinople, c'est-à-dire à Saint Jean Chrysostome. Et il va y avoir un concile, un synode, le synode du Chêne, donc nous sommes en 403-404, où Théophile va retourner en quelque sorte le concile contre Saint Jean Chrysostome. Entre-temps, Saint Jean Cassien va aller à Rome pour plaider la cause de Saint Jean Chrysostome auprès du pape. Et le pape a beaucoup apprécié Saint Jean Cassien, qui plus tard d'ailleurs rédigera pour le pape un traité contre Nestorius et contre le nestorianisme. Puis Saint Jean Cassien se dirigera vers le sud de la Gaule, qui était la région la plus développée, on peut dire spirituellement, romanisé, etc. Et il va fonder deux monastères, un monastère de moniales et un monastère de moines. Et il va, à ce moment-là, mettre par écrit tout ce qu'il pensait, enfin, c'est son expérience, dans deux ouvrages fondamentaux, les institutions cénobitiques et les conférences. Les institutions cénobitiques traitent de l'aspect extérieur de la vie monastique, l'habit, les horaires, les offices. Et les conférences traitent de l'aspect intérieur, c'est-à-dire de la prière et de l'enseignement spirituel.
Donc, Saint Jean Cassien meurt en France actuelle.
Hein, oui, oui.
Et c'est qu'il est là qu'il est enterré. Hein.
On peut dire aussi qu'il s'est heurté, dans ses conférences, il s'est heurté aux positions de Saint Augustin sur la grâce. Et par la suite, d'ailleurs, dans un synode qui aura lieu à Orange, les positions de Cassien vont être condamnées sur la grâce, mais pas le reste. C'est-à-dire que la réception de Saint Jean Cassien en Occident est un peu mitigée, mais ce qui le caractérise en quelque sorte, c'est un monachisme pondéré. Il sait bien, si vous voulez, qu'en Gaule, il y a un certain désordre, et que le monachisme est souvent conçu un peu comme l'osium des Romains, c'est-à-dire l'osium aristocratique. Bon, et bon, il va essayer de donner une autre teneur à tout cela, et ses livres vont être considérés comme des guides, parce qu'il sait bien qu'il y a peu de pères spirituels en Gaule, et donc ses livres vont faire l'office de pères spirituels.
Et voilà donc que le passage est assuré entre l'Orient et l'Occident, que le message, je dirais, fondamental du monachisme passe par quelqu'un qui l'a connu de très près, par de très grandes personnalités. Donc, de ce monachisme oriental du siècle auquel le monachisme est né. Et voilà le témoignage en France même aujourd'hui. Donc, une chance que l'histoire a offerte à la France d'avoir ici quelqu'un qui vient de la tradition oriental, et dire aussi que le monachisme oriental a toujours fait la synthèse hein, entre l'anachorèse et la vie communautaire, et c'est quelque chose qui continue.
Tout à fait, bon. Tout à fait. Et en plus de ça, Saint Jean Cassien va reprendre en gros le schéma des vagues, les deux phases de la vie monastique. La scientia actualis, c'est la pratique, la lutte contre les passions. La scientia spiritualis, c'est l'aspect spirituel et donc la contemplation, mais il va remplacer l'impassibilité des vagues par la puritas cordis, qui est beaucoup plus large et qui inclut aussi l'amour et l'agapé.
La pureté du cœur. Hein.
Voilà.
Yvan Koenig, un grand merci pour ce parcours des origines du monachisme. Alors, évidemment, à lire et à relire La vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie et puis d'autres livres dont les coordonnées seront sur le site de l'émission. Un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Romain Lenoir. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.